Et salut les marques et les smarts, et bienvenue dans le supplément SmackDown, votre émission hebdomadaire qui résume et analyse l'actualité du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Giscal, je meurs de chaud et je suis accompagné, comme toujours, de mon ami Yerem. Comment ça va, Yerem?
Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. Bah, ça va très bien, effectivement. Là, le ventilateur qui est allumé, je vais peut-être l'éteindre histoire de que ça s'entende pas trop à l'enregistrement, mais moi j'en peux plus. Hein. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça dure 5 minutes ce podcast?
Ce serait, on va essayer de faire au plus vite, même s'il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. J'espère que tous nos auditeurs sont bien installés à l'heure où ils nous écouteront avec un bon ventilateur, un bon verre de boisson fraîche. Et donc, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est ce qu'on va voir. Hein. Donc, on parle cette semaine du SmackDown du 20 juin 2017, qui était à Dayton, dans l'Ohio. On verra que ça aura une petite importance un peu plus tard. Et nous allons discuter des retombées de Money in the Bank, évidemment. Et au menu ce soir, ce midi, ce matin, peu importe, il fait chaud tout le temps, de toute façon, une mallette sans propriétaire, des revenants de tous les côtés, un Randy Orton en mode fête des pères, un Kevin Owens qui continue son gimmick de voleur de gimmick, et l'annonce d'un pay-per-view pour la semaine prochaine. Alors, on va voir tout ça, et on va le voir pas dans un ordre très chronologique, hein, parce que l'émission était une série un peu d'entrechats, d'entremêlement de storyline. Alors, l'émission s'est ouverte sur une promo de Carmella, mais je te propose de garder ça pour un grand segment de discussion pour la fin. On va tout de suite enchaîner sur le match qui a suivi cette petite promo d'ouverture et qui était Big E contre Jimmy Uso. Donc je confirme, c'était bien Jimmy Uso. Donc un contre un avec évidemment tous leurs partenaires autour du ring. Match relativement classique, hein, Big E qui commence avec une domination assez forte, mais distraction de Jey Uso qui permet du coup à son frangin de prendre l'avantage. On a une série de dominations d'huile à coup de tricherie, à coup de prise au sol assez standard. Big E qui revient avec un bon paquet de souplesse, mais qui se fait avoir en dansant un petit peu trop au milieu du ring, et il se mange un Samoan Drop pour le compte de deux. Big E qui finit quand même par arriver à tenter de placer son Big Ending. Mais Jimmy s'échappe et sort du ring avec son frère. Et donc là, on a un teasing un peu du décompte à l'extérieur. Une nouvelle fois, le finish de Money in the Bank qu'ils essayent de nous refaire. Sauf que cette fois, on est en 1 contre 1. Kofi et Xavier Woods veillent au grain au bord du ring. Et donc, ils les en empêchent. Ils sèchent un peu tout le monde. Xavier Woods qui ramène Jimmy Uso dans le ring. Big ending. C'est la victoire. Victoire donc de Big E en un match d'environ 6 minutes.
Oui, c'est ça, ouais. 5 minutes et 55 secondes, pour être
précis. 5 minutes et 55 secondes, voilà, on n'est pas passé loin des 6 minutes. Alors, avant de discuter de tout ça, pour faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé au niveau des équipes cette semaine, sachez qu'un peu plus tard dans l'émission, on aura eu les Hype Bros réunis depuis la semaine dernière avec le retour de Zack Ryder. Les Hype Bros qui sont venus réclamer auprès de Daniel Bryan, Daniel Bryan très occupé ce soir, ils sont venus réclamer leur fameux title shot. Et on en avait parlé. Avant la blessure de Zack Ryder, les Hype Bros avaient remporté le droit de défier les champions de l'époque. Daniel Bryan répliquera que, écoutez les gars, beaucoup de choses a changé depuis la blessure de Zack. Le paysage tag team a beaucoup changé. C'est difficile de vous propulser comme ça pour le titre. Bon, ça les empêche pas de le faire par ailleurs, hein, mais bon, manifestement pour les Hype Bros, c'est pas possible. Et donc, du coup, ils vont devoir passer par la case Number One Contendership, et nous aurons un match contre les Usos la semaine prochaine. Dernière chose à signaler, et non des moindres, nous n'avons pas eu la Fashion Police ce vendredi. Grand désarroi. Disons qu'on s'est rattrapé à Money in the Bank avec un épisode hors série. mais voilà, on les a pas eu. Donc voilà pour le paysage de la scène tag team post Money in the Bank. Irem, quelles sont tes impressions?
On va lancer un avis de recherche là pour la Fashion Police.
Ouais.
il
Ça
faut
m'inquiète, moi.
c'est plutôt inquiétant. Non, mais effectivement, après le c'était plutôt il y avait beaucoup de choses à mettre hein, dans cet épisode de SmackDown. Donc moi ça m'a pas je m'en suis même pas vraiment rendu compte parce qu'il y avait vraiment de quoi un petit peu s'occuper malgré tout.
C'est ça.
Évidemment, j'ai beaucoup aimé le match entre Biggie et les Uso. C'est classique hein, effectivement de se remettre en 1v1 comme ça entre deux juste après un tel match. Et Biggie avait particulièrement brillé même s'il avait été vraiment au bout du bout du bout. Kofi aussi, hein, je suis impatient de revoir un match de Kofi en individuel
Ouais,
la semaine
on en
prochaine,
a parlé.
probablement, parce que voilà, il était un de nos tops la semaine dernière, et là c'était vraiment du tout bon dans ce match, hein. Et puis voilà, ils vont réussir à, enfin, ça donne carrément
Ça
envie
fonctionne
de voir
bien,
la suite, hein. Ils sont bien individuellement, c'est vrai que Biggie et Kofi sont vraiment des catcheurs qui ont déjà eu hein, par le passé des carrières solo, enfin. Oui, si Biggie aussi, j'étais en train de
Si,
regarder ça
si,
aussi,
ouais, tout à fait.
il a eu le titre
À
quand même.
l'époque où. Ouais, et puis il avait été valet pendant
Ouais.
longtemps
Bon, j'appellerais pas ça une
de
carrière solo, mais.
AJ et Dolph Ziggler avant de s'envoler un petit peu de son côté,
C'est
ouais,
ça,
c'est ça.
voilà. Donc, c'est bien de mettre en avant aussi ce côté en solo. Ils sont meilleurs, on va dire, que les frangins. Mais les frangins, quand ils sont à deux, ils sont létales, on
Plus
va dire,
stratège,
stratèges,
ouais.
voilà, comme ils l'ont été lors de ce pay-per-view. Donc c'est bien pour eux. Et puis la suite, c'était quoi l'autre match, tu m'as dit?
Hey Bros, enfin le
Ah
petit la
oui,
petite annonce
ça,
quoi.
bien aussi, j'aime bien quand ils font ça, là, enfin qu'ils n'ont pas la mémoire
Qui flanche.
qui flanche. C'est bien aussi que ce soit eux qui, les Hype Bros qui réclament, parce que c'était quand même il y a 6 mois, donc c'est bien aussi parce que on va dire Zack Ryder lui il est pas passé à autre chose mais enfin Daniel Bryan et
Mojo.
nous et Mojo aussi on est tous passés à autre chose donc c'est bien et puis en plus si c'est pas on leur redonne c'est il faut faire ses preuves parce que ça fait quand même 6 mois et que de voilà l'eau a coulé sous les ponts on n'a plus les mêmes champions etc donc c'est plutôt bien amené comment dire, toujours ce travail un peu d'écriture qui est plutôt bon et j'ai trouvé, c'est peut-être le seul moment dans la soirée où j'ai trouvé Daniel Bryan bon dans sa
Ah.
réflexion, dans ce qu'il dit et dans ses décisions.
Ah, on va avoir l'occasion, je pense, d'en reparler dans les grandes largeurs, en effet, de tout ça. Mais avant toute chose, là, on va continuer sur le fil chronologique de l'émission. Juste après tout ça, on avait une interview non des moindres, une interview de Randy Orton. Randy Orton, qui était un peu à la manière des interviews de Michael Cole à Raw, était interviewé par Tom Phillips pour discuter de Money in the Bank. Vous le savez, Randy Orton a perdu une nouvelle fois contre Jinder Mahal, non sans controverse, mais toujours est-il qu'il a perdu, et donc il est là pour nous parler de son état d'esprit un petit peu. Donc il explique que il a fait une erreur, hein, clairement. Il a perdu parce qu'il s'est déconcentré. Il a perdu les pédales un peu, il a perdu le contrôle, il a perdu le fil du match, et il a galvaudé cette opportunité qu'il avait de reconquérir son titre et potentiellement d'en gagner un 14e, ce qui aurait été énorme. Mais ce qu'il n'oublie pas de mentionner non plus, c'est que Jinder, il a crossed the line, hein, il a dépassé les bornes, il a franchi la ligne rouge, il a touché la famille de Orton, il a attaqué sa famille. Donc maintenant, c'est bien plus que personnel. Il déclame avec une intensité retrouvée qu'il va entreprendre maintenant de démolir l'Indien dès qu'il en aura l'occasion. Il va tout faire pour le défoncer, même si ça implique d'aller à l'autre bout du monde en Inde et faire pleuvoir les RKO sur
Ah,
toute
ça
sa
c'était génial,
région,
ouais.
sur toute la région d'enfance de Jinder, sur sa famille, ses cousins, ses oncles, ses amis, son chien. Tout le monde en
Sa
prendra s'il le
grand-mère.
faut. Sa grand-mère, tout le monde va en prendre. Donc du coup, ça se termine là-dessus, cette petite interview. Belle intensité de Randy Orton qui, ça y est, il en a marre de Jinder Mahal. Il en a marre. Alors, avant de te laisser la parole, on va passer directement finalement à ce qui impliquait l'autre partie, Jinder,
La source de son
et
ras-le-bol.
la source du ras-le-bol. C'est pas moins que le main event, puisque nous avions en main event ce soir Jinder Mahal contre Luke Harper. D'ailleurs, oui,
Tadam!
Luke Harper est vivant. Et d'ailleurs, à ce sujet, en parlant de vivant, sachez que au milieu de l'émission, on a une petite pub pour Sonic, pour ceux qui c'est des fast-food, je crois, de américains, entre Sami Zayn et Ty Dillinger. Ty Dillinger qui était aussi
Tadam!
vivant cette semaine. Donc voilà, nous avions des petits retours. D'ailleurs, cette petite pub était assez marrante.
Je
Vous
me
pourrez
demande
la regarder.
d'ailleurs, on n'a pas vu la Fashion Police, mais peut-être qu'ils étaient occupés à retrouver tous ces portées disparues.
Exactement, exactement. Donc Luke Harper, bah donc il y avait un match contre Jinder Mahal. Alors j'ai pas énormément de choses à vous dire sur ce match. Match sans réelle saveur ni move vraiment particulier à retenir. Sachez juste que voilà, bon, on a eu des échanges avec des phases de domination assez standards jusqu'à une superplexe de Luke Harper sur Jinder Mahal, ce qui déclenche l'arrivée de qui? Du baron, le baron qui fait retentir sa musique et qui arrive avec un grand sourire et sa mallette et qui nous fait donc un petit teasing, hein, un petit teasing de cash-in potentiel après cette superplexe. On se doute bien que le timing est un peu étrange. Mahal n'est pas forcément très très KO et en fait le baron se contente un petit peu de faire le tour du ring tout en regardant Jinder dans les yeux. Il dit: je suis dans ta tête, machin, et il tourne un petit peu. Et il n'en fallait pas moins pour que Luke Harper en profite pour faire un petit roll-up des familles. Mais non, c'est seulement deux. Jinder Mahal est plus malin que ça. On a une petite distraction des Singh Brothers. Et du coup, Jinder Mahal en profite pour placer son Kala, son colosse, on sait jamais vraiment. Victoire donc en 10 minutes de Jinder, qui on pourra regretter qu'il aurait eu besoin d'une distraction pour battre Luke Harper, même si ça fait partie du personnage. Bon, c'est toujours un petit détail dont on aurait pu se passer. Et après ça, pour être encore une fois complètement complet, Randy Orton arrive. Il entreprend de défoncer les Singh Brothers. Hein, donc là, on est dans la lignée de sa promo. Il est pas du tout content. Il défonce les Singh Brothers. Il s'en prend à Jinder Mahal, le balance par-dessus la barricade. Il essaie de le ramener dans le ring. RKO, non. Sauvé par les sous-fifres, qui du coup, pour bonne mesure, s'en prennent un chacun. Pendant que le chef s'enfuit, l'émission se terminera là-dessus. Donc voilà, les développements pour la scène, pour le titre. On semble continuer un petit peu avec maintenant le facteur X Baron Corbin, notre ami Baron. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça?
Oula, ouais, beaucoup beaucoup de choses. Donc déjà, ouais, un plaisir de retrouver Luke Harper. Je pense qu'on était effectivement Jinder Mahal. Typiquement, j'adore Luke Harper, mais il y a un moment, il faudrait qu'il batte des mid-carders sans avoir besoin d'intervention systématique de ses sbires. Ça,
Oui.
ça serait quand même pas mal, hein. Ça fera Luke Harper, il en souffrira pas vu son booking actuel.
Non, ouais, exactement.
Et j'ai bien aimé la promo interview de Randy Orton là. Il y avait beaucoup d'intensité. C'était plutôt engageant comme promo. Et puis après, bah, son intervention, le beatdown était plutôt cool. Voilà, maintenant Jinder Mahal, super. Enfin, leur match au pay-per-view était vraiment bien. Là, on va retomber un peu en mode weekly. J'ai un petit peu peur de ce qu'ils veulent faire là. Je sais pas si. Est-ce que c'est terminé là, cette histoire avec Randy Orton ou pas? Ça n'a pas l'air d'être le cas, à mon avis. On en a encore pour
Non, manifestement non.
quelques semaines, en espérant qu'on ne se retrouve pas dans cette situation dont on a parlé, je crois, dans le chat privé, où tu as Randy Orton qui va battre Jinder Mahal dans un match qui soit pas pour le titre, histoire qu'il ait sa vengeance, mais que Jinder conserve la ceinture. Ça, ce serait vraiment dommage, mais pas improbable, parce que bah, ils le font souvent. Rappelez-vous son match face à Bray Wyatt, hein, c'était exactement la même chose, hein. Bray Wyatt a eu sa vengeance, mais sans pour autant récupérer le titre. Et après, voilà, les deux sont séparés. Et en grosso modo, les deux avaient gagné, quoi, dans la tête des gens. Mais ça aide plus Randy Orton que ça n'aiderait Jinder Mahal. Donc,
Ouais.
je sais pas trop là. Je suis un peu
Un peu
inquiet, un
perplexe.
peu perplexe pour le futur de cette storyline.
Ouais, moi aussi, c'est vrai que je partage un peu ta perplexité. Je m'attendais pas spécialement à ce que c'est vrai que ça continue, en tout cas, enfin, que ça continue. J'ai trouvé la promo de Randy Orton bien. Parce que c'est vrai que c'est, enfin, il peut pas se contenter de ça. C'est pas dans son caractère, c'est pas dans son personnage.
Bien sûr.
On a envie d'y croire quand il nous dit qu'il va, archéo la grand-mère de
Ah, ça c'était
Jindermal.
génial, j'étais plié quand il a dit ça.
Mais en même temps, on a du mal aussi à voir le truc trop, trop traîner dans la longueur. Donc, écoute, à voir. Est-ce que y a le facteur Baron Corbin qui rentre maintenant là-dedans me laisse croire qu'il va peut-être falloir du coup peut-être compter un petit peu vers peut-être une transition, pourquoi pas Baron Corbin qui viendrait peut-être un peu trop mêler son nez dans ces histoires et qui pourrait rentrer dans une rivalité avec Randy Orton le temps que Jinder Mahal fasse sa vie et que le cash-in se fasse, ça pourrait être
Oui,
une
ça
solution.
c'est effectivement assez probable également.
Écoute, à voir, mais bon, ça avait le mérite d'être plutôt intense et dans la lignée de ce qu'on s'attendait à voir après le Money in the Bank, donc ça m'a plutôt plu, moi, tout ça. Donc voilà, écoute, on va continuer, et donc on revient, parce que là, je vous ai parlé du main event, mais on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir après donc cette promo d'Orton, et nous avions cette semaine un rematch Nakamura contre Dolph Ziggler, un rematch donc du premier un contre un de Nakamura, du japonais de Backlash, qui nous avait pour beaucoup déçus. Et ben le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils avaient décidé de se rattraper manifestement cette semaine, puisque on a eu un long match de 17 minutes, très 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 intense, donc avec plein plein de choses dans ce match. Ziggler qui ouvre le bal qui essaye de jouer sur son background de lutte amateur un petit peu, hein, mais qui voit qu'il est rapidement pris à son propre jeu par un Nakamura qui cherche à placer son armbar tout de suite, donc très très à l'aise au sol aussi Nakamura. Donc Ziggler qui se rend compte que finalement ça va pas fonctionner aussi facilement qu'il l'avait prévu, donc il essaie de changer de stratégie. Il sort du ring, il tourne un petit peu autour, il essaie de tricher, de jouer avec les cordes, de placer des cheap shots, mais toujours systématiquement contré par un Nakamura qui déroule à coup de donc il déroule un petit peu tout son arsenal, cravate, snapmare, good vibration, tout y passe, les coups de genoux, mais évidemment, comme tout bon match qui se doit, Ziggler finit par prendre l'avantage en contrant ce temps fort hein, du japonais et en l'envoyant dans le poteau. Donc, s'ensuit une phase de domination de Ziggler qui entreprend assez intelligemment toujours hein, ce souci de garder le japonais cloué au sol, de l'empêcher de reprendre du momentum, de la vitesse. On sent que vraiment le japonais, enfin Nakamura est vraiment présenté comme virevoltant et beaucoup plus agressif que d'habitude et prêt à exploser à tout moment. Donc Dolph Ziggler fait un bon travail à ce niveau-là pour le garder immobile, mais il pêche malheureusement Dolph un peu par arrogance et se fait piéger à un moment où il gueule un peu sur un Nakamura au sol, il le taunte un peu. Nakamura du coup en profite et revient, coup de pied, coup de genou, Kinshasa, non, Kinshasa contré pour un Famouser, pour un assez joli compte de deux. La fin de match qui s'enflamme complètement avec Nakamura qui va se dégager d'un zigzag, puis du sleeper hold de Dolph Ziggler avec une façon assez originale de s'en sortir avec un coup de boule. Et du coup, dans la foulée, Kinshasa du japonais sur Dolph Ziggler. Terminé, bonsoir. 17 minutes de match, ma foi, plutôt plaisante. Un match un petit peu sous forme de rédemption pour les deux. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, Yann?
Alors, j'ai une proposition à faire. Et si on disait que c'était le premier match de Nakamura à SmackDown? On oublie le passé.
Serait
On
pas mal,
efface
hein?
l'ardoise. Nakamura vient fraîchement d'arriver. Il a fait une entrée fracassante au Money in the Bank. C'était un participant mystère. On ne savait pas. Il restait un spot à prendre. Et
C'est
Nakamura
vrai.
est arrivé. Et du coup, là, hop, premier match face à Dolph Ziggler. Hein, ça, c'est, voilà,
Ça sympa,
on respecte. Et c'est leur premier match. Et là, tu te dis, ah ouais. Là, il y a de l'intensité, il y a du strong style, il y a des coups qui claquent, toi, il y avait vraiment
Ah ouais,
une
il y avait tout là.
texture tout à fait différente. Et c'est marrant parce qu'il y a le visuel, évidemment, mais aussi le son hein, qui joue beaucoup dans un match de catch, les coups qui claquent, etc. On connaît tous ces fameux Atemi qui sont avec les Woo qui suivent derrière, etc., mais qui se mettent des grosses claques sur le torse. Voilà, si quelqu'un écoute le podcast pour la première fois en tombant juste là-dessus et qu'il connaît rien au catch, il va se demander de quoi on parle. Mais vraiment, là, il y avait, enfin, les coups de Nakamura, quand ils claquent, ils font partie de ces coups qui sont vraiment assez impressionnants. Et là, on a retrouvé ça, ce qu'il n'avait pas du tout dans dans ses premières prestations. Ou alors, c'était vraiment anecdotique. Et quelle intensité. Quand il y a eu le contre, en plus, sur le Kinshasa, j'étais fou parce que, enfin, vous savez, Kinshasa, c'était devenu one shot, boom, c'est terminé. Le mec, il a juste à faire deux moves, dont celui-ci, et c'est terminé. Là, Dolph Ziggler, ils se connaissent quand même, donc j'ai trouvé ça bien pour à la fois Dolph Ziggler, pour Nakamura et pour le match. Ce contre était assez représentatif de, je trouve, illustre plutôt bien. Le petit ajustement qui est en train d'être opéré visiblement sur le booking de Nakamura, ce dont on appelait de nos voeux lors de notre analyse du Money in the Bank avec ce duel face à AJ Styles. Donc moi je suis ravi, ça, j'ai adoré ce match vraiment et ok, d'accord, je veux bien aller à Nakamura maintenant, on remet tout à plat, je te donne une seconde chance, peut-être même une troisième
Allez,
chance
vendu. Quoi,
et on y va, donc bien, moi j'étais ravi.
Non, ouais, bah, tout pareil, donc non c'est vrai que ça faisait plaisir. Et ben on espère maintenant qu'ils vont capitaliser là-dessus, mais
ouais, ça
passera par voilà des prestations plus inspiré comme ça, après ça viendra tout seul, il a le public derrière lui, donc c'est, ça ne peut que faire du bien d'enchaîner des matchs comme ça. On continue avec écoute, un petit moment sympa, puisque on avait the new face of America, Kevin Owens, qui est venu nous parler dans le ring. Il est venu nous parler pourquoi. Bah, il se plaint. Il se plaint de pas avoir gagné le Money in the Bank car il considère que tous les autres participants se sont un petit peu ligués contre lui et ont essayé de mettre fin à sa carrière. C'est vrai que pour ceux qui ont écouté notre analyse et qui ont vu le pay-per-view, Kevin Owens a été au centre de tous les plus gros spots quasiment hein, du match. Il a été plusieurs fois passé par les échelles. Enfin, on sentait quand même qu'il était destiné à prendre très très cher sur ce match et il n'oublie pas de nous le rappeler. Mais il n'oublie pas non plus de nous rappeler que il est là, il est toujours là, il est toujours champion US et il va profiter de cette opportunité pour montrer qu'il est un champion vaillant et bagarreur et il veut lancer un Open Challenge. Écoute, complètement à la John Cena, hein, Open Challenge. Donc après le highlight reel de Kevin Owens, nous avons l'Open Challenge de Kevin Owens.
Le plagiat est une forme d'hommage. Hein.
Le plagiat est une forme d'hommage, exactement. Et du coup, qui arrive? AJ Styles. La musique d'AJ Styles qui retentit, le public explose aux premières notes de la musique. On se dit, putain, yes, Owen, c'est AJ pour le titre. C'est cool, ça. On va avoir le droit à un petit rematch aussi encore. Il est chaud, il est bouillant, mais Kevin Owens ne l'entend pas de cette oreille. Alors, il s'attendait sûrement pas à avoir un mec de ce calibre-là répondre à son challenge. Et il dit non, en fait, j'ai pas dit, mais c'était réservé à un régional de l'étape. Hein. On est à Dayton, Ohio. Toi, t'es pas de Dayton, Ohio. Tu peux pas concourir. Et donc, les deux s'embrouillent un petit peu. Et quelle musique entend-on décidément cette semaine?
Quelle musique?
La musique des American Alpha.
Non.
Et si, la musique des American Alpha qui retentit. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Que des retours dans tous les sens.
Ils sont tous revenus,
ils ont tous été retrouvés. Mais n'avance vers le ring que Chad Gable tout seul qui arrive vers le ring avec un micro et qui nous explique, non sans humour, avec un petit sourire en coin, que écoute, ça tombe bien, je viens de déménager à Dayton ce matin. Il nous donne une adresse d'ailleurs probablement bidon, ce qui fait beaucoup rire AJ Styles à côté de lui.
Au final, ça s'est révélé être une adresse de la fac de l'université locale.
Écoute, merci d'avoir vérifié, j'avais pas vérifié.
Tu sais, moi je suis du genre à appeler les numéros de téléphone qu'on voit apparaître dans les films.
Ah oui, d'accord, t'es allé checker, t'as envoyé une carte postale à l'adresse.
À l'attention de Monsieur Gable.
Et donc du coup, et ben on a un match parce que son embrouille a l'air de fonctionner. Donc du coup, on a un match. L'arbitre sonne la cloche et nous avons donc Chad Gable contre Kevin Owens. Écoute, match assez sympa, 6 minutes environ. Match plutôt en mode un peu sprint, hein, enchaînement de spots jusqu'au grand finish. Beaucoup de souplesse hein, du côté de Chad Gable qui déroule tout son arsenal à ce niveau-là hein, de German souplesse, de belly to belly, overhead souplex, tout y passe, toutes les souplesses que vous pouvez trouver sont dans le catalogue de Chad Gable. Et on finit avec un joli spot sur la fin, hein, une de deadlift German, hein, donc quand il soulève à même le sol Kevin Owens pour une German souplesse, pour un compte de deux assez plaisant. De manière générale, il a eu plutôt des beaux nearfalls, Chad Gable.
Ah oui.
Mais c'est pour le compte de deux seulement. Owens qui arrive à tricher en mettant un coup de pied dans les cordes qui rebondissent dans la face de Chad Gable qui est étourdi. Il l'envoie dans les cordes pour une pop-up powerbomb. Victoire du champion qui retient, non sans mal, face à un vaillant Chad Gable. On a eu l'opportunité bah, du coup de voir ce qu'il donnait un peu en solo. Et c'était pas dégueu. Donc voilà, victoire en 6 minutes pour ce petit Open Challenge. Alors,
Effectivement, alors déjà quel plaisir de tous les revoir là ce soir dans différentes configurations. Mais Gable, ouais, de toute façon, il a toujours été dit que Gable en solo, il a un énorme potentiel, même si je pense qu'il faut quand même continuer à travailler, enfin voilà, à faire bosser les deux ensemble, American
oui,
Alpha, ils sont géniaux, je comprends vraiment pas, il y a du, enfin on aura peut-être un jour l'explication, c'est pas ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que c'est assez original de les faire revenir comme ça en solo. Alors on a entreaperçu au loin dans l'ombre du distantron, il y avait Jason Jordan qui avait allé, vas-y mon gars.
J'ai le droit de sortir ou pas? Non,
ouais,
non,
donc, même lui on l'a entreaperçu, on le verra peut-être la semaine prochaine. Hein. Peut-être pour le deuxième.
Pour le deuxième Open Challenge, il va dire qu'il aura déménagé lui aussi.
ce serait rigolo. Ce serait
assez drôle. Ça serait drôle.
Voilà, moi, si j'étais un scénariste et que je voudrais pas trop me faire chier, faire un truc assez marrant, je ferais ça.
Ouais, moi aussi.
mais et puis évidemment, ils ont bien fait parce que le booking du match était classique, intéressant, classique dans le sens où c'est typiquement le genre de configuration où effectivement tu fais briller le prétendant inattendu,
ouais.
Parce qu'il le prend de vitesse et qu'il a des near fall complètement dingue et puis qu'après le il arrogant mais malgré tout meilleur reprend réussit à se retrouver et on finit voilà dans un match de quoi moins de 10 minutes là et puis c'était emballé, c'est pesé, mais c'était vraiment super et il est vraiment impressionnant Gable et Kevin
ouais,
Owens, ça lui va bien de
puissance pure.
Ah, la puissance pure, exactement, hein, l'athlétisme. Et puis dans sa petite promo, parce que
ouais, c'était pas mal,
il était pas mauvais ce côté un petit peu petit
blagueur là.
Il a vraiment une bonne gueule Gable, hein, le public se trompe pas en plus, hein, ça a toujours été le chouchou des deux, même si après voilà Jason Jordan a réussi également à avoir de la sympathie pour lui, mais Gable il a vraiment cette gueule sympathique et de petit con, mais voilà, qui fait des pures souplesses de dingue. C'est vraiment impressionnant dans le ring. Donc moi je sais pas s'il va refaire ça, s'il va le refaire la semaine prochaine, son petit Open Challenge, en sachant
écoute,
que
être,
dans deux semaines je crois on est le 4 juillet et que c'est le retour de d'un autre présentateur, un autre du créateur original du US Open Challenge. Donc pourquoi
ouais.
pas un peu peut-être un peu couru d'avance, mais un peu téléphoné, mais il sera
ouais.
peut-être appelé à des choses plus d'autres voilà,
sait,
plus élevées, mais ouais,
ça
franchement c'était
une façon d'en revenir aussi,
c'était vraiment cool, j'ai trouvé la façon dont ils ont ramené un peu tout le monde ce
ouais,
soir
non, sympa, je suis d'accord.
Ça fait vraiment ok, bon, on a, je sais pas s'ils se disent ça, mais en tout cas moi j'aime me le dire comme ça, c'est ok, on a merdé, voilà, les revoilà, ils sont de retour, voilà, voilà Dillinger,
pardon,
voilà.
Pardon,
il est là, ouais. Luke Harper vous l'aimez bien, voilà, on le met dans le main event, Gable, ah, vous les kiffez, l'American Alpha, bah voilà, il va faire des near fall, et puis au fait, ah, Nakamura, c'est vrai, on a un peu merdé, il va faire un beau match ce soir.
C'est ça, voilà, tout le monde avait le droit de revenir. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, le lendemain, Chad Gable a tweeté sur son sur son compte que bah, il remerciait, il disait merci Dayton, on n'est pas passé loin hier soir, merci pour la pour le soutien. Par contre, sachez que j'ai redéménagé dans le Minnesota ce matin, donc je trouvais ça assez marrant.
Un déménagement d'une
voilà,
heure et quatre heures.
Il a déménagé à Dayton juste pour l'occasion. C'est du dévouement. Allez, on va continuer. Et on va continuer bah, du coup, avec notre dernière séquence qui enveloppe un peu toute l'émission. Puisqu'on va rembobiner au tout début. Et on va arriver bah, sur la promo d'ouverture de ce SmackDown. On va parler de tout ce qui a trait au Money in the Bank, à la grande controverse de cette semaine. Et donc, Carmella et James Ellsworth sont de sortie, mallette toute neuve, toute brillante devant. Carmella et James qui viennent un peu se foutre de notre gueule, quoi, nous taunter, nous provoquer, nous spectateurs et téléspectateurs. Elle demande le respect, elle dit « j'ai bien aimé James qui est derrière tout ça », elle lui demande de tenir sa mallette, elle dit « attends, tiens-moi ça s'il te plaît, j'ai des choses à dire ». Donc, gna gna gna, tout le monde s'est plaint sur les réseaux sociaux du résultat, mais who cares, on s'en fout, j'ai fait taire tout le monde m'a sous-estimé depuis le premier jour, on se souvient qu'elle a été draftée en dernière à SmackDown, et donc voilà, c'est sa revanche, elle a dit « j'ai fait taire tout le monde », pendant que toutes les autres filles, toutes ces super Star était concentrée sur faire l'histoire, écrire l'histoire. Moi, j'étais plus intelligente que tout le monde. Je suis venu avec un plan et je l'ai mis à exécution. Alors, difficile de lui donner tort quand elle nous balance tout ça. Et puis elle mentionne tous ces trolls là de l'internet. Elle a gâché le match. Les filles au pouvoir, elle a gâché l'histoire. Ils disent qu'elle a triché. Mais arrêtez de dire que j'ai triché. Il n'y avait pas de règles et il n'y a pas de règles. C'est un match sans disqualification. Elle nous boucle un peu. Elle nous ferme un peu tous à nous tous notre clapet et puis elle nous dit que Daniel Bryan, comme on le sait, a prévu de donner sa décision un peu plus tard, mais il va confirmer tout ce qu'elle vient de dire, puisque personne n'y peut rien. Donc ça, c'était la petite promo d'ouverture. Après, pendant l'émission, on va voir un petit peu un fil rouge, en fait. On va voir, parce que Daniel Bryan est de retour ce soir, et Daniel Bryan a eu une soirée assez occupée, puisque toutes les filles sont passées le voir à un moment ou un autre de l'émission. Alors, on a eu Natalia qui lui a parlé de ses chats. Il y a eu Tamina qui a fait le pot de fleurs encore derrière, qui avait rien à dire. Charlotte qui n'était pas contente du tout. Becky Lynch qui a eu un échange assez douloureux d'un point de vue hors kayfabe, qui a dit à Daniel Bryan qui lui a lancé c'est pas, de toute façon on sait, ici c'est pas le land of opportunities, c'est le land of handouts. Donc c'est le terrain des pas des opportunités, mais au contraire des pistons, quoi. Difficile de contredire aussi quand on sait ce que fait Shane McMahon depuis plusieurs semaines à SmackDown. Donc bon, voilà, on a aussi Naomi qui a été interviewée, qui trouve ça dommage, mais qui, en filigrane, nous dit plus ou moins qu'elle s'en fout un petit peu de ce qui s'est passé. Mais qu'elle s'en fout un petit peu de ce qui s'est passé.
Je m'en fous.
Oui, elle est championne, donc elle s'en fout. D'ailleurs, Lana passait par là et... elle a demandé, elle n'était pas contente, elle a demandé un rematch. Et elle va l'avoir, son rematch, puisque la semaine prochaine, nous aurons Lana versus Naomi pour le titre numéro 2, si je ne m'abuse. Donc pareil, il m'a suffisé de demander, ça donne un petit peu raison à Becky Lynch aussi. Et donc, tout ce fil rouge nous amène vers la fin du show. Pas exactement la fin du show, on se situe juste avant le main event Mal-Harper. Et Daniel Bryan qui arrive dans le ring, c'est le moment, la révélation. Que va-t-il se passer ? Daniel Bryan appelle toutes les participantes dans le ring. Elles font leur entrée, chacun leur tour. Donc chacun parle un peu vite fait en se menaçant les uns les autres. Donc c'est un peu les promos classiques, elles ont une phrase à réciter chacune leur tour.
De la merde, quoi.
Oui, la palme du malaise revenant une nouvelle fois à Tamina qui, alors là, il y a eu un bug dans la matrice, je pense, parce qu'elle a répété mot pour mot la punchline de Charlotte. Donc pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu le segment, en fait, il y a Natalia lance une saucisse, Charlotte la coupe en disant écoute Natalia, ferme-la, tu commences à me saouler, si tu continues, je vais te faire ressembler à James Ellsworth. Soit. Et Tamina qui prend la parole, fait ouais, Charlotte, tais-toi, sinon je vais te faire ressembler à James Ellsworth. Bon, soit.
Mouin,
Ok.
malaise TV.
Malaise TV. Bon, bref, on continue.
Accroché.
Daniel Bryan, bah,
Aïe,
qui nous explique la situation, qui nous dit que bah, il est allé voir dans le WWE Rulebook, le livre des règles, bon, le fameux qu'on n'a jamais vu, et bah, il nous explique qu'il est dans la, il est dans la mouise, Daniel, parce que bah, rien n'empêche James Ellsworth de faire ce qu'il a fait. Rien n'est marqué. Dilemme pour le GM, mais en même temps. Rien n'est marqué, mais c'est aussi, bah, c'est une première, c'est-à-dire que ce qu'a fait James, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc, bah, on est en face d'un inédit qu'il faut trancher. Donc,
un
on est
vide
dans un cadre,
juridique.
dans un vide juridique. Donc, bah, techniquement, il y a moyen de faire jurisprudence, quoi. C'est un peu ce qui nous explique Daniel Bryan. Et donc là, James Ellsworth, il sent le bordel arriver, le coupe. Il le coupe, il prend le micro comme il sait faire, et puis là il le traite. Ouais, Daniel, qu'est-ce que tu racontes? T'es devenu soft depuis que t'as donné naissance à un petit bébé hippie vegan qui s'appelle Birdie. Là, t'es devenu tout soft. Alors là, il en fallait pas plus pour que le sang de Daniel Bryan ne fasse qu'un tour. Et alors là, il se colle à Ellsworth et il pète un câble, il menace de le frapper sous l'ovation du public, hein, qui était très 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 chaude, hein, qui aurait bien aimé voir Daniel Bryan coller une pêche à James Ellsworth, qui est de plus en plus efficace, hein, vraiment insupportable. Hein, t'as envie de le prendre, pas par le menton, c'est pas possible, hein, mais par ses deux trois cheveux qui se battent en duel là, pour l'envoyer valser. Donc petite intervention assez efficace de James Ellsworth. Et on ne sait pas si c'est ça qui a provoqué la décision, mais en tout cas, Daniel Bryan a dit que bah, il s'était décidé et que eh ben, il allait tout simplement refaire le match. Il a décidé de reprendre la mallette devant une Carmella au bord des larmes. Il reprend la mallette, stupeur dans le stade, stupeur mêlée de sifflets, hein, parce que le public est un peu frustré, parce que Daniel Bryan nous annonce que bah, il va y avoir un Money in the Bank la semaine prochaine. Eh oui! À SmackDown la semaine prochaine. Alors forcément Dayton ils sont là. Ah, oui bon c'est bien
Bah,
joli mais
ils
bon
font
nous.
comme Gable, ils déménagent, hein.
Bah ouais ils devraient tous déménager la semaine prochaine parce que bah voilà nous allons avoir un Money in the Bank. Donc tout est remis à zéro. Les participantes seront bien évidemment les mêmes. Les règles seront les mêmes et ce sera donc mardi prochain. Grosse baston évidemment. Daniel Bryan sort du ring avec la mallette. Grosse baston pour finir. Pas pour finir le show, je vous ai déjà expliqué où on se situe, mais pour finir en tout cas nous bah, notre podcast, mais évidemment il faut qu'on discute de bah, de tout ça.
Oui,
Irem,
c'est
coup de
bon,
théâtre,
tu peux
coup de
reprendre ton
théâtre.
souffle.
Vas-y.
Alors, excellente, mais même formidable promo de Carmella en début de show.
Oui.
Elle a fait une, je trouve, alors, une des meilleures promos de SmackDown depuis bien longtemps. Ce qui n'était pas évident pour elle, hein, ses promos en intro de show pour chauffer le public. À noter, et c'est je trouve un critère de notation que j'utilise moi pour évaluer une promotion d'un heel, parfois même d'un face, elle n'a récolté aucun watt.
Absolument.
Personne ne l'a coupé
Et non.
à base de watts. On sait que
C'est parce que
rapidement, parce que
c'était très intéressant ce qu'elle
c'était
avait à dire, quoi. C'est
intense
ça,
et
c'est.
ça avait c'était justifié une fois de plus. On se retrouve dans le cas d'un heel. Qui argumente et dont les arguments tombent vrais, tombent sonnent juste quoi.
Ouais.
Donc quand elle t'explique effectivement que elle avait juste un plan, qu'elle est loin de toute
L'histoire, machin.
ouais de faire l'histoire etc. Ce que nous-mêmes parfois on leur reproche.
Ouais.
Donc c'est là, c'est toujours le ce double. Toi, tu te retrouves un peu bloqué face à ce genre de promotion. C'est qu'effectivement, on est là parfois à aller critiquer la WWE parce qu'ils sont plus, ils donnent plus de, ils bossent plus à faire des vidéos pour dire qu'ils font l'histoire qu'à vraiment la faire et surtout à la faire co
Ouais.
correctement, toi, et pas juste. Ah, au fait, regardez, on fait un Money in the Bank féminin. Regardez, on fait une sale. Puis entre-temps, après, quand tu regardes les weekly. Et eh ben tu dis en
Ouais,
fait c'est
super
juste
quoi.
le château de cartes s'écroule et en fait c'est t'as l'impression que c'est du flan tu te dis toi c'est ils le font parce qu'il faut le faire et que c'est de bon et ça fait le ça fait ça attire les projecteurs sur la WWE hein. Il y a des on en parle de fameuse révolution féminine en dehors du cercle de catch. Mais après, quand on retombe sur du weekly, tout s'écroule et on a des promos pas terribles, des histoires pas terribles et on est loin de d'écrire l'histoire à ce moment-là. Donc là, Carmella, elle arrive, elle te balance toute cette promo-là bien argumentée. Waouh, moi j'étais touché quoi. Enfin, il y avait vraiment de l'émotion en plus dans ce qu'elle disait. Effectivement, il y avait quelque chose de vrai, c'est que une grosse différence avec beaucoup de promos qui sont faites par les filles. Bah, regarde la promo, vous étiez 4 ou 5 là, c'était juste le gros malaise, c'est qu'elle avait vraiment quelque chose à dire, elle avait vraiment
C'est ça, elle avait un truc à dire.
Elle avait un sujet, elle avait de quoi nourrir son discours et elle était vraiment impliquée parce que ça l'a touchée directement et c'est là où tu vois le talent se révèle le temps de 5 ou 10 minutes. Après, le talent, il doit se transcender pour justement réussir à faire des belles promos quoi qu'il arrive et pas juste quand tu as un sujet particulier. Toi, t'es un Kevin Owens, tu feras une super promo quoi qu'il arrive. Mais pour autant, Carmella a vraiment probablement sorti une... Pour l'instant, de cette storyline, c'est elle qui s'en sort le mieux, je trouve, par rapport à ça, parce que il y a comme une énorme dissonance pour du coup maintenant parler de ce qui s'est passé après, une énorme dissonance entre ce qu'ils ont construit là en début de show, où en gros ils ont construit la heel de SmackDown, la vraie heel de SmackDown, c'est Carmella. Regardez, en plus elle arrive à faire des promos de dingue. Et patatras, c'est elle avec sa mallette, elle l'a gagné, elle l'a joué perso, elle l'a eu, tant pis pour vos petits chouchous préférés, tant pis pour vos envies d'histoire, maintenant c'est elle qui a la mallette, donc maintenant il va falloir se battre pour l'empêcher de devenir championne, il faut que les face, toutes vos chouchous, vos stars, vos babyface retroussent leurs manches plutôt que d'aller pleurer et aillent l'empêche.
Ce qu'elles ont fait pendant toute l'émission.
Ce qu'elles ont fait, et voilà, et là, patatrac, qu'est-ce qu'elles font les filles pendant toute l'émission? Le bureau des pleurs, le bureau des plaintes, et vas-y que je vais chouiner, etc. La seule une que j'ai trouvé pas trop mal, c'était Charlotte, parce qu'elle avait eu un discours qui était assez intéressant, parce que c'est un peu de la mise en abîme, où elle explique que, justement, elle était occupée à faire l'histoire, etc. Et qu'en elles ont fait l'histoire malgré tout. Et c'était un discours un peu, à mon avis, un peu de subtexte, comme on dit, où finalement, elle incarne... Donc, à ce moment-là, elle est dans une position où elle incarne les gens qui sont pas contents de ce qui s'est passé à Money in the Bank, qui disent, ouais, les filles, c'est honteux, c'est pas féministe, elle se fait aider, etc. C'est un mec qui va décrocher. Mais après, elle dit quand même, on a fait l'histoire, on voulait faire l'histoire, mais finalement, la fête, mais bon, pas comme prévu, tu vois.
Comme c'était prévu.
Mais, elle le dit pas vraiment et en fait c'est comme l'a prévu la WWE une fois de plus. C'est un beau rappel là, c'est la WWE qui écrit,
qui décide,
c'est son histoire, ça reste de la fiction. Ils sont acteurs et narrateurs en même temps et c'est une autobiographie qu'ils écrivent. Hein. C'est pas nous qui décidons de l'histoire la WWE. On a un.
C'est ça.
Ils prennent en compte évidemment les fans, mais les réactions, etc. Mais ça reste eux qui décident et n'oubliez jamais, enfin ne faut jamais oublier que. C'est jamais aussi passionnant que quand on nous donne quelque chose auquel on s'attendait pas et qui finalement se révélait être quelque chose dont on avait besoin en tant que spectateur. Toutes les fois, on est surpris et en fait, c'était la bonne chose à faire. Je dis pas que c'est ce qui se passe à chaque fois, hein, évidemment. Mais il faut éviter de se. Enfin, c'est pas nous qui détenons l'histoire de la WWE.
Non.
Et donc, pour revenir cette fois-ci à Daniel Bryan et sa décision, c'est l'apothéose de la connerie. Enfin, c'est la débilité absolue. Le seul angle pour moi qui peut sauver ça, ou alors ils en trouvent un autre, mais qui peut sauver ça, c'est une figure d'autorité. En l'occurrence, il reste plus que Shane. Alors, ça me fait chier de mettre mes espoirs en Shane McMahon. Et qui vient voir Daniel Bryan et qui lui dit, mec, ok, t'as pris ta décision parce que t'étais en colère, parce que James Ellsworth t'a bien fait chier, ils ont quand même insisté là-dessus. Et ta décision parce que tout le discours de Daniel Bryan, la conclusion est totalement opposée au discours qui tenait. Il disait, c'est vrai, c'est quand même un match sans disqualification.
Il le dit qu'en fait, il est dans la merde parce qu'en fait, quand il parle, on comprend qu'il aimerait bien reprendre la mallette. Mais en même temps, ce qu'il dit, il est en train de dire, putain, j'aimerais bien reprendre la mallette, mais je peux pas, quoi. Enfin, genre, C'est, elle a gagné, quoi.
Et ouais. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reprend la mallette.
Ben, il reprend la mallette.
Ouais. Et là, là, dans ma tête, je dis, non. C'est... Ouais, enfin, c'est pas possible. C'est juste pas logique. Ou alors, je te dis la seule logique, mais ils ont pas assez insisté là-dessus. Après, j'ai regardé un bout de Talking Smack et ils ont pas vraiment insisté sur ce point-là. Il a continué à jouer sur le côté règlement par règlement, en ayant toute la condescendance de Daniel Bryan qu'il avait. C'est vraiment le GM des débuts, toi, méchant avec les heels, enfin malhonnête, toi, parce que c'est des heels et que pour faire plaisir au public, au face et au public qui supporte les face, et ben il va tout pour faire chier les heels en abusant de sa position, quoi. Et c'est terrible parce que dans ce cas-là, il aurait fallu plus faire l'emphase sur le fait qu'il a fait une décision prise de colère, et c'est dommage parce que ils l'ont fait avec avec James Ellsworth qui, enfin, le mec vient d'être papa et il s'y touche pas à ma fille, quoi. Et ouais. James Ellsworth, qui est le petit con qui a été décroché la mallette, bah toi, il prend la mallette et de colère, et il prend cette décision-là. Et puis après, Shane vient le voir et lui dit, écoute, mec, t'as merdé, on peut pas faire ça. Voilà. Mais ils vont sûrement le refaire, le Money in the Bank, la dommage dans tous les cas. Ça,
ah oui, oui, je pense qu'ils vont le refaire. Moi, ça, c'est vrai que je m'y attendais pas. Mais donc, ils vont le refaire, je pense.
Je sais pas, t'en penses quoi, toi, cette décision et... C'est con,
non ? Elle est bizarre, cette décision. En fait, elle est bizarre à plusieurs niveaux, parce que bon, déjà, si c'est vrai que si on écoute ce qu'ils disent, elle se tient pas à la fois. C'est-à-dire que bon, bah, il peut prendre cette décision, mais oui. la façon dont il y arrive n'a pas trop de sens, c'est vrai, par rapport à la décision qu'il prend. Surtout qu'en plus, il reprend en fait quasiment mot pour mot les arguments de Carmella en intro.
Exactement.
D'une certaine façon, quand il les reprend, c'est qu'il les valide. Et puis bah, après, derrière, mais je vais pas te paraphraser, tu l'as bien dit. Après, on a l'impression qu'il prend un peu une décision de colère et que du coup, bon, bah, il change d'avis. Sauf que c'est pas non plus trop l'impression qu'il semble donner après coup, puisque bah, il a l'air d'assumer complètement sa position et tout. Donc, bon. Puis donc, bon, il y a ça qui pose problème. Et puis après, il y a juste d'un point de vue pur. Histoire de catch basique de manière générale, en fait, on donne le payoff au public beaucoup trop tôt. Parce que, évidemment, que c'est ultra. Enfin, là, on jouait sur une frustration terrible. Carmella à la mallette, elle nous a gâché notre premier Money in the Bank féminin. James Ellsworth, c'est insupportable. Donc, on n'a qu'une seule envie, c'est de les voir perdre cette mallette, de les voir rater. C'est in fine, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le catch. C'est on a envie de voir les heels se faire ridiculiser en bout de course, de perdre, surtout quand ils sont un peu clownesques comme ça.
Donc, en bout de course, comme tu le dis.
Oui, en bout de course. Sauf que là, en fait, on est 48 heures après, et on a déjà tué cette frustration, on a fait plaisir à tout le monde. 48 heures après, on a retiré la mallette, c'est fini. Donc évidemment, c'est pas fini, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais d'un point de vue juste le béaba du catch, un peu, c'est genre, bah tu sais, moi je sors du truc, je suis bon, c'est voilà, elle s'est fait enfumer.
Le béaba de n'importe quelle histoire que tu racontes, ouais. Le méchant, tu. Il faut avoir le temps de le détester avant de...
C'est ça, on était en train d'apprendre à la détester en début d'émission, et c'est déjà fini. Elle s'est fait niquer, tu vois.
Donc, non, mais c'est horrible, non, mais... c'est horrible.
Donc c'est quand même un peu dommage. Alors après, bon, bah écoute, je sais pas quelle crasse ils ont prévu pour lui faire regagner la mallette la semaine prochaine, parce que...
Il sera banni des rings, c'était officialisé de la Talking Smack.
Ok, bon bah écoute, parce que moi j'ai dans l'idée qu'elle va gagner... Mais si au final elle gagne sans l'aide de personne, sans rien et tout, je comprends pas trop la.
En fait, c'est simple, qu'elle gagne la mallette ou qu'elle la perde, ça sera nul. Oh. Si elle la conserve, tu te dis bah tout ça pour ça, alors que le boulot de construire le heal venait d'être fait.
Avec oui, c'est ça, c'est que le plus dur était fait.
Le plus dur était fait, avec notamment cette promo qui est quand même, tu mets entre les mains du catcheur seul face au public, tu lui mets entre les mains la construction là pendant 10 minutes du futur heal pour les mois à venir de ton roster. Donc et c'était une réussite totale. Et tu redéconstruis ça dans le même épisode, comme tu l'as si bien expliqué, 48 heures plus tard, c'est déjà fini. Si et derrière, en plus, tu la re... Enfin, Alors, il faudrait la faire regagner à la limite avec la plus grosse crasse, une crasse encore plus grosse.
C'est exactement ce que j'allais dire, mais par contre, je me dis, si Elsewhere, si Elsewhere s'est banni, ouais, si Elsewhere s'est banni, là, aujourd'hui, j'ai pas d'idée, mais je me dis, il va falloir qu'il trouve vraiment un truc horrible pour la faire gagner, un truc qui va vraiment nous mettre tous hors de nous, quoi.
Bah oui, parce que si elle y parvient sans avoir recours à une.
Ah bah, du
une,
coup,
une
elle
seule
est
crasse
quoi,
ou une crasse de
oui.
moins de envergure, on va dire.
Enfin, bah, bravo.
Bah bravo. Bravo bah, ouais. Oui, elle est méritante.
Ouais.
Du coup, tu la détestes moins potentiellement.
Bah
toi.
Oui, oui. C'est donc, pour ça. C'est une. C'est potentiellement une impasse.
Moi, je vois bien Elsewhere arriver avec une scie à métaux et limer le. Il va pas décrocher la mallette, mais il va limer ce qui la retient. Toi, ça va être un truc comme ça, enfin, tu vois ce que je veux dire, un truc assez énorme où effectivement c'est encore pire.
En tout cas, ah, l'image a sauté.
L'image a sauté, mais
en tout cas,
clairement,
je suis, ouais, je suis très très impatient, c'est vrai, de le voir du coup ce match.
Ouais, mais toi là, ils abusent. Autant.
Mais ils abusent, je suis d'accord, parce que sur le principe. Bon, écoute, là, ils peuvent soit tout foirer, soit peut-être faire un truc d'encore plus stylé, mais je sais pas.
En tout cas, ils sont mis des bâtons dans les roues pour faire un truc plus stylé, toi.
Ouais,
rien
ouais,
que pour rattraper leur erreur, parce que pour moi, c'est une erreur. Rien que pour rattraper cette erreur, ça va leur demander beaucoup de travail. Un travail qu'ils avaient déjà excellemment exécuté. Alors, pour faire encore
mieux. Si c'est juste pour tirer sur la corde et te faire un Money in the Bank SmackDown parce que ils aiment bien la stipu et ils veulent en faire le.
Il faut que ça passe à la télé, etc. Toi,
ouais, mais bon, si c'est ça, c'est un peu dommage. Mais
bah
bon,
ouais,
écoute,
prenez votre temps. Bon, ouais. Voilà. Bon, c'est bien que tu aies gardé cette séquence pour la fin parce que clairement, il y avait vraiment.
Il y a des choses à dire.
Juste pour conclure, par rapport au pay-per-view où j'étais vraiment pas content, mais que c'est passé après et que ça a vraiment bien servi. C'est ce qu'on s'était dit, on va dire. On sentait que ça allait servir l'histoire et les personnages. Et c'est ce qui s'est passé, en tout cas au début avec Carmella. Mais là, non, pour moi, il y a trop de. Il n'y a même pas en termes de booking ou de scénario. Pour moi, c'est vraiment mauvais, c'est contre-productif.
Ouais, je suis pas loin de. J'ai envie d'avoir la conclusion de la semaine prochaine pour vraiment savoir, mais au jour d'aujourd'hui, je suis d'accord, c'était pas une bonne solution. Enfin, en tout cas, je suis pas d'accord avec non plus. Quoi. bon, en tout cas, on sera curieux d'avoir vos avis, chers auditeurs, sur tout ce segment
majeur. Il y a sûrement
majeur,
des gens très heureux d'imaginer qu'elle va.
Mais bon.
Ce qui s'est passé.
Et ouais. Beaucoup de choses possibles. Toujours est-il qu'on se retrouve la semaine prochaine avec un quasi pay-per-view, hein, parce que c'est ce que je disais dans le menu de cette émission. On va avoir Naomi versus Lana pour le titre,
ouais.
La revanche. On va avoir Baron Corbin contre Sami Zayn, qui était une affiche de Backlash aussi, la revanche. On va avoir les Hype Bros contre les Usos pour le titre de Number One Contender, enfin pour le titre de Number One Contender, pour savoir s'ils peuvent être Number One Contender. Et puis bah, on va avoir ce Money in the Bank rematch. Donc on a d'ores et déjà un sacré épisode sur les bras la semaine prochaine. Donc on a bien hâte.
Yep.
On va passer au mot de la fin, c'est fini. On a fait le tour. Yarem, tu connais la chanson, le top, le flop, ta note.
Oh bah ça va aller vite et je pense que beaucoup l'auront deviné. Mon top, je le décerne à Carmella, sa promo était géniale. Et mon flop, je le décerne à Daniel Bryan parce que c'était complètement con comme décision, je suis désolé. Le vieux Daniel aigri des premiers jours est de retour et c'est complètement stupide. Et ma note, écoute, ma note, je vais mettre un 3,5 parce que c'est comme j'ai trouvé un très bon épisode avec des très bons matchs. Le retour de, on en a parlé, entre les retours, la bonne prestation de Nakamura, l'Open Challenge, la promo de Carmella.
Trop de trucs, plein de choses.
Il y a même la petite promo de Orton, les petits RKO qui sont tombés. Je veux dire, à part le segment des filles avec Daniel Bryan, moi j'étais ravi. Hein.
Ouais. Puis en plus, on n'a même pas eu de Maria et Mike Kanellis. Là,
ah oui, donc bah, 3,75 alors. Parce que c'est vrai, on les a pas vus. Formidable.
Formidable.
C'est en 10 longs à mon avis. Hein,
ouais, c'était bien. Mais c'est bien. Ça veut dire que quand ils ont beaucoup de choses à nous raconter, ils savent quand même faire la part des choses entre ce qui est intéressant et pas intéressant. C'est bien. Et ben écoute, mon top, bon, moi je l'aurais évidemment donné aussi à Carmella, mais du coup je vais en profiter et je vais le donner à Chad Gable pour son retour réussi. Sa prestation de très haute volée, il avait 6 minutes à faire contre Kevin Owens et il les a bien faites. très très belle prestation de Chad Gable. Maintenant, on aimerait revoir son comparse, mais bon, c'est déjà ça. Et en flop, ben écoute, moi en flop, je vais le donner à Tamina qui a failli ruiner, en tout cas qui nous a mis un gros blanc dans la promo cruciale, hein, d'annonce de cette décision de Daniel Bryan, donc avec cette petite punchline absolument horrible. Bon, écoute, si vous n'avez pas vu le segment, allez le voir, parce que c'est quand même
elle est juste
quand même
vraiment
drôle.
Très mauvaise, hein. Je pense ça de très
je
peu de
que,
catcheurs, mais celle-ci,
ouais, il faut je pense qu'il ne faut plus jamais lui donner un micro,
ah,
parce
plus
que là
jamais,
c'était très
elle est
grave,
mise
hein,
en pot de
mais
fleurs, hein.
Ouais, elle est mise en pot de fleurs. Et puis, bah, ma note, bah, moi, écoute, je ne vais pas hésiter à dégainer le 4 sur 5. Très bel épisode. Abstraction de ce sujet de discussion. Il y a eu plein de retours, du très bon catch, énormément de développement, qu'on les aime ou pas. Voilà, il y a eu beaucoup de développement scénaristique. Un très très bel épisode post-pay-per-view. Bah, écoute, si ça n'augure que du bon pour la semaine prochaine, donc 4 sur 5. Et sur ce, eh bien, c'est terminé pour cette semaine, chers auditeurs. Bah, je vous invite à toujours, bah, nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter @ketchupcdc, sur Facebook la page, bah, du même nom, ketchupcdc, sur le forum des Cahiers du Catch pour aller retrouver nos avis, soit sur les articles en page d'accueil, soit sur le forum, discuter avec nous. Vous pouvez retrouver cet enregistrement sur YouTube pour la vidéo, sinon sur iTunes, sur PodCloud comme toujours. Vous connaissez tout ça maintenant. IRM, bah, merci beaucoup, comme d'habitude.
Merci à toi, Giscal. On a bien discuté. C'est toujours un plaisir de débattre avec toi. Même si là, on est souvent d'accord, mais on débat quand même. C'est
C'est vrai.
formidable.
Oh, c'est vrai, on est souvent d'accord. Mais bon, c'est important, quoi qu'il arrive. C'est un bel endroit de débat, ce supplément. Je suis très satisfait, hein, de nos discussions. J'espère que. Bon, et puis, bon, bah, écoutez, comme toujours, on attend vos commentaires, bah, sur tout ce qui s'est dit. Un épisode très plein. Donc, venez nous en faire part dans les commentaires. Mettez-nous des pouces vers le haut, vers le bas, peu importe. Notez-nous sur iTunes. Vous connaissez tout ça. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 27 juin, pour, bah, ce SmackDown qui s'annonce, en tout cas, incontournable, dans les péripéties du show bleu. Et jusqu'à ce prochain rendez-vous, je vous souhaite une bonne semaine climatisée. Et puis, bah, à la prochaine. Salut tout le monde!
Salut!
J'ai dormi avec le ventilateur dans la tronche, mais sauf que du coup, je me suis réveillé avec un mal de crâne.
Pourquoi tu l'as mis dans la tronche?
Mais parce que j'arrivais pas à dormir sinon.